Nous sommes sur Radio Esperanza. Nous avons vu au début d'après-midi le groupe Sanghoy Blues qui jouait sur la scène Côté Jardin. Au début, il n'y avait pas grand monde et puis les gens sont arrivés petit à petit, en écoutant la musique, en voyant. Alors, comment il s'appelle le chanteur danser un peu le...
Aliou.
Aliou.
Oui.
Danser le petit chicken.
Oui. Tout à fait. Oui.
Alors, nous sommes avec le guitariste qui s'appelle, répète-moi ton prénom.
Garba Touré. Oui.
Et donc qui faisait partie du groupe Sanghoy Blues. Alors Sanghoy Blues, c'est un groupe qui a une histoire quand même. Hein. Apparemment, vous étiez tous les quatre, vous vous connaissiez de vue, mais vous n'étiez pas dans le même groupe.
Oui, tout à fait. C'est apparemment, on se connaissait à la faculté. Moi, Aliou le chanteur et Omar le bassiste. Mais il y avait pas de relations proches entre nous. On connaissait juste, ouais, Ali Omar, ils sont des Gao et aussi ils savent que moi je suis de Tombouctou. Mais notre collaboration a eu lieu suite aux événements de 2012 qui ont eu lieu dans le nord du Mali. Il y a eu une inondation des djihadistes, une forte rébellion qui a eu lieu, donc dont la vie était quasiment impossible pour nous.
Les musiciens, en plus, les djihadistes ne permettaient pas la musique.
La musique et beaucoup d'autres manifestations culturelles étaient interdites. Du coup, on a jugé nécessaire de se retrouver à Bamako. Là, moi, je ne savais même pas que je vais croiser Ali Oumar à Bamako et aussi, il ne croyait même pas du tout qu'il allait me croire là-bas. Mais là, on est là. À Bamako aussi, il y avait eu les coups d'État. Tout le pays était à chaos en général.
Ouais.
Donc, on savait que tout un chacun on s'intéressait à la musique, donc du coup on se rencontre des fois dans l'après-midi pour prendre l'été ensemble. C'est comme ça, on prend les guitares, on essaie de faire des certains titres ensemble. L'idée est venue de pouvoir rester ensemble.
Ouais. Et il y a aussi une petite fée qui est passée pas loin, c'est Damon Albarn.
Oui, ça c'est après une année lorsque nous on a commencé à animer dans les maquis à Bamako.
Ouais.
On voulait enregistrer un morceau pour qu'on puisse, parce que nous depuis qu'on a commencé à jouer ensemble, on n'a pas un morceau qui passe à la radio nationale ou bien à la télé nationale. On s'est dit bon les gars, il faut qu'on enregistre un morceau pour les laisser à la télé nationale pour que les gens puissent nous connaître. Bon, du coup on était chez un tonton du nom de Barou Diallo. Uh-huh. Il a un studio. Il nous a dit, bon, c'est une bonne idée ce qu'on avait, mais déjà, il y a une délégation anglaise qui est là avec les Damon Albarn, Nick Zainer, Marc-Antoine Moreau. C'est une grosse délégation qui vient de Bamako pour chercher des jeunes musiciens au talent. Mm-hmm. Donc, le projet Africa Express, il nous a donné les contacts, on les a appelés et ils nous ont invités à venir le lendemain à la maison des jeunes. Bon, là, on s'est rendu là-bas. On ne savait même pas qu'on allait partir là-bas pour jouer. Uh-huh. Arrivé, ils nous ont dit, voilà les gars, ça tombe à pic. On a trouvé une trentaine de musiciens maliens qui étaient là. On a dit, ah là, ça, c'est vraiment une affaire à s'apprêter. Donc, ils nous ont dit de monter sur scène et de jouer. On a joué deux titres. Le lendemain aussi, on nous a appelé encore, on est venu, on a joué deux titres encore. L'après lendemain, on nous a donné un rendez-vous au studio Bogola.
Ouais.
Avec Nick Zainer et une partie de la délégation. On a enregistré les morceaux Subur ensemble. D'où nous, on ne savait même pas que c'est un truc extraordinaire, autre chose. Donc, dès ce moment-là...
Tu ne connaissais pas tous ces gens-là, en fait?
Non,
Damon,
non.
Albarn, Nick Zainer, tu...
Damon, lorsqu'on l'a vu la première fois, et Nick Zainer, on ne croyait même pas que c'est des musiciens aussi connus. Mais lorsqu'on est venu en Angleterre, à Londres, pour faire les concerts avec eux, on est rentré dans YouTube pour voir leur parcours. On a su que vraiment, là, on était avec des grosses pointures musique. Ouais.
Et est-ce que tu as une idée du pourquoi c'est plutôt des Anglais qui ont aimé la musique plutôt que les Maliens à la base, les radios et la télé, vous programmez pas. Pourquoi les Anglais sont plus intéressés à ta musique, tu penses?
Oui, là, je dirais tout simplement parce que chez nous, au Mali, on a une culture, une musique on n'a pas une industrie musicale chez nous.
Ouais.
Les gens ne se donnent pas le temps de pouvoir trop s'intéresser. Ils aiment la musique, on sait qu'on a des trucs très très intéressants concernant notre musique, notre culture, mais les gens ne se donnent pas le temps. Surtout, le côté musique, c'est une industrie en Europe, en Amérique, mais au Mali, tel n'est pas le cas.
Mais il y a quand même des gens qui passent à la radio, il y a quand même des musiciens qui passent à la radio.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a des grands frères de papa qui ont des, comme les Salif Keïta, les Ali Farka, les Amadou Bagayogo, mais ceci là aussi, ils ont dit beaucoup traîné pour arriver à sortir à la télé ou bien écouter à la radio, ça n'était pas facile pour eux aussi, oui.
Mais oui, parce que, enfin, donc c'est Sylvain. Moi, je travaille à la radio des foyers à Paris, donc avec des migrants qui sont dans les foyers, donc les Maliens, les Sénégalais. Et on a monté une radio il y a 2 ans. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'en Afrique, il y a beaucoup de musique, mais elle est dans la vie quotidienne, dans la rue. Il y a beaucoup de choses qui se passent un peu de manière informelle au final.
Ouais.
Et comme tu disais, les circuits de production, comme nous, on les connaît ici, studios, concerts, tout ça, et bah, c'est moins développé. Mais par contre, il y a quand même quelques producteurs. Je sais qu'il y a notamment Tikenja qui monte des studios entre le Sénégal, le Mali. Mais après, ils ne sont pas forcément accessibles à des petites formations qui débutent.
C'est ça.
Oui, c'est ça. Oui, c'est dit. En fait, aussi, bon, il y a des gens de bonne volonté qui connaissent l'importance de la musique, qui aimeraient aussi créer cette industrie-là. Mais une seule personne ne peut pas faire face à l'industrie musicale. Il faut l'appui gouvernemental, il faut l'appui de toute la communauté pour que ça puisse être vraiment, pour que les artistes puissent
vivre vraiment
voilà.
De leur
Sinon,
musique.
Les artistes vivent très mal de leur art au pays. Moi, je sais très bien de quoi je parle.
Alors, pour parler peut-être de la musique vraiment que vous faites, qu'est-ce que tu écoutais, toi, à la maison comme musique chez tes parents? Est-ce qu'il y avait déjà du rock qui passait à la maison, à la radio? Tu écoutais déjà, je sais pas, James Brown, Jimi Hendrix?
C'était Jimi Hendrix. Avant même de commencer à jouer la guitare, j'écoutais trop Jimi Hendrix, j'écoutais trop B.B. King, Carlos Santana, j'écoutais trop Harry Kuder. Oui, étant donné chez nous aussi, les Ali Farka, les Tina Ruen, les Amadou, j'écoute la musique. Tant qu'il y a la guitare dans la musique, je l'écoute toutes ses formes. Oui, là, mais Jimmy, ça reste un de mes idoles.
Qui ça?
Jimi Hendrix.
Ah oui, Jimmy.
Ça reste un de mes idoles que chaque fois, ce son ne quitte pas mes oreilles. Je n'arrête pas d'écouter sa musique. Ouais.
Et tes parents, ils écoutaient ce genre de musique-là? Quand tu étais enfant, il y avait ce genre de musique-là qui passait à la maison?
C'est tout. Mon père fit un des musiciens d'Ali Farka. Lorsqu'il savait que moi j'aime beaucoup Jimi Hendrix, il me pose la question. Et toi, est-ce que tu connais cet homme-là? Tu aimes la musique, tu connais lui là? Il me dit, lui là, c'est le dieu de la guitare électrique, c'est lui qui a fait trembler la guitare. T'entends? Il m'explique l'histoire de Jimmy. Ça, je commence à aimer encore de plus Jimi Hendrix. Voilà, vu l'histoire que mon père me rencontre, parce que lui, il a une idée de sur cet homme.
Et alors, quand vous avez commencé à écrire les chansons, quelle est la part de musique traditionnelle que vous gardez, la part de rock et de ce que tu as écouté à la radio? Comment est-ce que vous composez les morceaux?
Voilà. Vous savez, chez nous, durant de longues années, on a notre musique, mais une musique très, très brute, c'est-à-dire que ce n'est pas développé. La musique n'est pas développée. Bon, vu les générations précédentes, chacun essaye de faire son coup de pouce. Mais nous, notre génération est venue considérer avec la technologie et beaucoup d'autres moyens qu'on peut rendre, à travers lesquels on peut rendre la musique plus vive.
Ouais.
Donc pourquoi nous, il y a des morceaux de nous qui n'ont rien à voir avec la musique traditionnelle. Ça, on les a composés à notre génération, à notre temps. Tel qu'il y a aussi des morceaux des traditionnels qu'on amène et qu'on électrifie, on essaie de les moderniser, de les rendre encore plus dynamiques qu'auparavant.
Al-Haziri Tere Sakur karanga abodi godoro abonde gokubi abine gokankam asidungu wandi ni wandi na godi asibangu wandi ni wandi. Sakur kan
De reprendre la parole, c'est vrai que du coup il y a une très forte culture d'instruments acoustiques, djembé, il y a aussi
le ngoni,
la kora.
Oui, tout ça c'est chez nous, vous savez, les ngoni, la monocorde, les violons, les djembé, la calabasse, ça c'est des instruments à l'époque où notre musique se passe à travers ces instruments-là, parce que les ancêtres ne connaissaient pas les instruments modernes. Bon,
ouais.
Nous, on est venu considérer avec une époque où il y a les instruments modernes, il y a les effets.
Les amplis, tout, les effets.
Tout. Voilà, donc on essaie de faire cette musique-là à travers la génération qu'on est venu considérer avec.
Et parce que oui, moi j'ai regardé, j'étais au concert, ça m'a beaucoup plu d'ailleurs, j'aime beaucoup votre musique.
Ouais, merci.
Et je serais ravi de pouvoir la diffuser à la radio des foyers, mais on en reparlera.
Merci.
Mais c'est surtout que j'ai senti justement les influences de Tina Riwen, par exemple, de cette guitare, de la musique Touareg, du nord, justement, du désert, quoi, du Sahel.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est chouette de voir une autre interprétation par, justement, les Maliens, qui reprenaient aussi ces racines-là et qui les mettaient au goût du jour, en musique, du coup, électrifiée.
Ouais.
Mais du coup, avec l'identité et la manière de faire malienne.
Ouais.
Parce que Tina Riwen, c'est un Touareg, donc c'est pas tout à fait les mêmes les
La
mêmes
musique,
codes.
Ça parle exactement les langages que tu parles. Nous et Tina Riwen, nous venons tous du désert, de la même zone, mais nous sommes les populations qui vivent au bord du fleuve, mais les Tina Riwen, ils sont juste en plein désert.
Et ils sont nomades, c'est eux qui bougent.
Voilà, ils sont dans les nomades. Bon, là, on a toujours la même musique à écouter, les blues, mais nous parlons la langue Soré et ils parlent la langue Touareg. Quand tu écoutes notre musique, la musique de Tina Riwen, tu sens qu'il y a des particularités très très proches, comme si aussi il y a, mm-hmm. y a voilà, mais tu sens aussi que les deux musiques ne parlent pas le même langage, mm-hmm. mais ils viennent de la même région parce qu'ils sont des Sorais, ils sont des Touaregs. Ouais. Quand des Bozos du Nord font leur musique aussi, tu vas voir les particularités, mais tu vas aussi voir leur spécificité
les influences. Voilà. Ouais, ouais. Et est-ce que du coup vos on peut comment dire le fait de mélanger, que vous réutilisiez ces musiques, ces influences Touareg, est-ce que ça, dans les conflits qu'il y a eu en début d'année, ça joue un rôle ? Il y a quelque chose qui...
Une réconciliation qui pourrait passer par la culture, peut-être ?
En fait, il ne peut pas avoir une réconciliation sans l'appui des musiciens.
Tels que et des artistes.
Ouais, des artistes. Tout récemment, là, on a fait un concert avec Tina Ruben à Brighton. Ah. Là, on a échangé avec les Abdallah, avec Saddam, avec Yado, tous les groupes. On sait que nous, ce qui se passe au Nord, c'est tout à fait différent. Ce n'est pas l'idée des populations du Nord. Ouais. Parce que nous, les musiciens, on n'arrête pas de chanter la paix, la réconciliation, étant donné qu'on sait qu'on est condamné à vivre ensemble dans cette zone-là, que ce soit Touareg, Pel, Sor et tous, durant des longs siècles, on est là, on vit ensemble. Ce n'est pas maintenant qu'il doit y avoir des indifférences. Et puis, tout le monde le sait, mais ça, c'est une guerre, je dirais, qui n'est pas la nôtre, qui nous dépasse. Ce n'est pas vraiment l'idéologie des populations de
ce sont des djihadistes qui sont de l'extérieur.
Ou quand même, c'est une idée. Cette guerre, ça ne dépasse aucun des peuples du Nord.
Ne se retrouve dans
cette idéologie, non.
D'accord. Mm-hmm. Alors, on va devoir là se quitter parce que vous avez beaucoup d'interviews et beaucoup de contacts avec la presse. Un grand merci.
Merci à vous. Merci
et bonne chance pour le reste de la tournée. Il y a encore quelques concerts là.
Oui,
voilà, bonne chance, courage.
Merci beaucoup.
Tenez
merci.
Bon.
Merci.
Et si tu devais nous choisir un morceau de Jimi Hendrix, ce serait lequel ?
Ça va être One Day I Had a Woman.
One day I have a woman.
I had a woman. When il a un morceau, do you know or I know?
Ah oui,
ça c'est un morceau qui me tue là.
Ah ouais, génial. Je l'aime beaucoup aussi, ouais, maintenant que tu le chantes.
Voilà, exactement.
Bah merci beaucoup.
Super, un grand merci.
Like a ring wrapped around the third finger of the seventh hand.